capitale de Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parole aux auditeurs. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international, FMI, a approuvé mercredi 15 janvier l'accord de 38 mois d'un montant d'environ 3 milliards de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. Cette approbation du conseil d'administration du FMI est l'aboutissement de l'accord négocié par les experts du ministère des Finances et Budget sous l'égide du ministre des Finances Doudou Fouamba Likoundé en décembre dernier. Dans un communiqué de presse, le directeur général adjoint et président du conseil d'administration du FMI, Kenji Okamura, affirme que l'économie de la RDC est restée résiliente avec une croissance économique robuste, une baisse de l'inflation et des déficits budgétaires malgré les défis importants auxquels elle est confrontée, notamment les conflits armés dans l'est du pays et une crise de santé publique liée à l'épidémie d'impox. Par ailleurs, la première ministre Judith Suminwa, dans son message des vœux pour le nouvel an, publié le 1er janvier dernier, avait souhaité que la paix, la sécurité et la stabilité règnent sur le pays afin qu'il continue sa marche inexorable vers une République démocratique du Congo unie et prospère. Face à la guerre injuste qui nous affecte depuis 3 décennies, je voudrais affirmer ici ma solidarité avec les personnes déplacées qui vivent dans des conditions désespérées et m'engage à soutenir toutes les actions en vue de mettre un terme à leur souffrance, a annoncé Judith Suminwa. Quel bilan dressez-vous de l'action du gouvernement Suminwa sur le plan socio-économique et sécuritaire pendant l'année 2024? Après le passage du porte-parole du gouvernement sur cette question dans cette émission la semaine dernière, on y revient aujourd'hui, lundi 20 janvier, avec cette fois-ci la lecture de l'opposition politique. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net pour réagir dans le groupe WhatsApp des Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 099 706 80 79 099 706 80 79. Déjà, nous avons quelques réactions. Josué Lumbala depuis Kinshasa, cet accord de 3 milliards de dollars représente une opportunité significative pour notre pays, surtout dans un contexte où nous faisons face à des défis majeurs comme les conflits armés et les crises sanitaires. Il est crucial que nous restions unis pour soutenir des initiatives qui favorisent la paix et la prospérité. Je crois également que la voix des citoyens doit être entendue dans cette discussion. Quels sont nos espoirs et nos attentes vis-à-vis de cet accord? Comment pouvons-nous contribuer à construire une république plus stable? Hippolyte Kapanga est à la mise en onde de ce magazine, Paul Badianyama et Nelson Nobé à la vidéo. Julie Fezabongonda en assure la réalisation et la coordination à la présentation Guy Maté.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081 99 77 800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Parole aux auditeurs. Merci à tous ceux qui ont déjà réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui, comme je l'ai dit, du bilan de l'action du gouvernement souminois sur les plans socio-économiques et sécuritaires pendant l'année 2024. Et pour échanger sur ce sujet, nous recevons en ligne Augustin Matata Ponyo. Il est député national, il est autorité morale du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD en sigle, parti politique de l'opposition. Il est également ancien premier ministre de la RDC. Bonjour, honorable Augustin Matata Ponyo.
Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis à Kindu dans le Maniema. Voilà.
Merci beaucoup, bon séjour là-bas. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à cet échange citoyen. Nous en profitons de l'occasion pour vous présenter à vous ainsi qu'à toute votre famille. Nouvelles et meilleures pour cette nouvelle année 2025, monsieur Augustin Matata Ponyo.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil.
Voilà, on commence avec les secteurs socio-économiques. Quel bilan pouvez-vous, monsieur Augustin Matata Ponyo, quel bilan pouvez-vous dresser de l'action du gouvernement souminois sur les plans socio-économiques en 2024?
Le bilan de madame Soumina est largement négatif. Largement négatif, et je ne vais pas aller par le faux fuyant. Je vous donne quelques indicateurs macroéconomiques. Taux d'inflation en 2024, environ 11%, environ 11%. Un taux d'inflation dans un pays en développement de 11%, c'est une contre-performance remarquable. Parce que, comme vous le savez, le taux d'inflation est une taxe implicite que le gouvernement applique sur le revenu des Congolais. Vous le savez très bien, tous les Congolais, les fonctionnaires de l'État, le médecin, les avocats, et les professeurs d'université, les infirmières, tout ce monde-là touche son salaire en francs congolais. Et lorsque vous avez un taux d'inflation de 10, de 11%, ça veut dire qu'il y a eu un prélèvement de force du gouvernement Soumouina sur le revenu du peuple congolais, qui n'a pas ce privilège-là d'avoir des ressources en devise. Deuxième point, taux d'échange. Vous le savez très bien, en dépit du fait que des efforts sont faits, mais le taux d'échange est passé de 2686 à fin décembre 2023 à 2863 à fin décembre 2024, soit un taux de dépréciation qui avoisine le 7%. Ça veut dire, même les Congolais qui gardaient leurs ressources en monnaie nationale, s'il y en avait, mais en tout cas en dollars, les ressources ont été plus ou moins dépréciées. Troisièmement, en ce qui concerne le paiement régulier des salaires. Messieurs les journalistes, je suis arrivé à Kindu ici dans ma fief électorale, dans mon fief électoral, mais les gens sont impayés. Les gens sont impayés. Alors qu'il y a quelques temps, quand j'étais au gouvernement, on payait les gens le 15. Maintenant, on paye les gens à l'improviste. Le bilan est largement négatif. L'accumulation des arriérés qui financent de manière factice la stabilité du taux d'échange. Les salaires ne sont pas payés. Les investissements ne sont pas faits. Les frais de fonctionnement ne sont pas payés. Donc, c'est un bilan largement négatif, surtout quand on regarde le nombre de grèves, qui se déroulent dans l'administration publique. C'est vraiment décevant.
Voilà, vous parlez d'un bilan négatif. Apparemment, vous ne vous basez pas sur
largement,
le même...
Largement négatif.
Voilà, je précise largement négatif. Mais apparemment, vous ne vous basez pas sur le même paradigme que le FMI qui affirme que l'économie de la RDC est restée résiliente avec une croissance économique robuste, une baisse de l'inflation et des déficits budgétaires. Ça, c'est le FMI.
Mais monsieur le journaliste, je pense que le FMI fait la honte. Le FMI fait la honte parce que pour la première fois, on réalise que l'institution Fonds monétaire international ne préserve pas sa crédibilité qui est reconnue mondialement. Je l'ai dit dans un article scientifique intitulé « Comment le FMI accompagne le sous-développement dans les pays, dans les continents africains, cas de la RDC de 2019 à 2024. Mais comment le FMI peut nous parler d'une croissance robuste fondée uniquement sur le secteur minier? Comment le FMI peut nous parler d'une résilience, d'une économie qui est pratiquement dans les corruptions, dans les scandales à détournement? Comment le FMI peut nous parler d'une performance, d'une économie en déficit budgétaire, dont plus de 53% des dépenses publiques ont été faites hors la loi? Mais c'est un scandale de la part du FMI. C'est un scandale. J'ai écrit à la directrice générale du Fonds monétaire international. J'ai écrit au directeur général, au président de la Banque mondiale, et qui sont censés être les champions de la bonne gouvernance. Lorsqu'il y a des suspicions de détournement, lorsqu'il y a des suspicions de corruption, mais la moindre des choses, c'est de pouvoir auditer les dépenses. Le Fonds monétaire a dépensé entre 2019 et 2024 2,176 millions de dollars américains en termes d'appui au gouvernement congolais. De ces 2 milliards 176 millions de dollars américains, 1 milliard 466 millions sont susceptibles d'avoir été détournés, soit 67% des ressources décaissées par le Fonds monétaire entre 2019 et 2024 et qui sont sujets des détournements, soit 67%. Comment le Fonds monétaire peut refuser le conseil d'un député national pour dire « c'est vrai, le gouvernement a besoin d'argent, vous voulez lui donner 3 milliards, mais avant de décaisser, faites le fisc et l'audit ». Mais ils l'ont pas fait. C'est que le Fonds monétaire est dans la complaisance, on peut même dire dans la complicité.
Monsieur Augustin Matata Ponyo, il y a quand même des évidences, hein, avec cette maximisation des recettes par les régies financières, qui est une réalité aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a aussi les réserves d'échange qui sont estimées aujourd'hui à environ 6 milliards de dollars américains. N'est-ce pas des performances, monsieur Matata Ponyo?
Ce sont des performances, on ne peut pas les refuser, c'est vrai, mais il faut reconnaître que c'est lié d'une part à l'évolution favorable du cours d'échange, mais d'autre part, c'est lié à ce décaissement et, du FMI, de la Banque mondiale et de la BAD qui ferment les yeux sur l'usage non acceptable de ce fonds. Donc, il faut voir, monsieur le journaliste, quand j'étais Premier ministre, on n'a pas travaillé avec le Fonds monétaire, mais on a fait des réserves d'échange qui ont culminé jusqu'à 4 milliards de dollars. Et là, c'était des vraies réserves d'échange parce que non alimentées par l'aide extérieure. Voilà la vérité aussi.
Alors, sur le plan sécuritaire, quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans la partie est du pays, qu'est-ce que cela vous inspire, monsieur Augustin Matata Ponyo?
Écoutez, je l'ai toujours dit, l'insécurité à l'est, par le M23 principalement, c'est quelque chose à dénoncer parce que c'est une agression. Tout le monde le sait. Les rapports des Nations Unies ont été établis. Il s'agit d'une agression par les troupes rwandaises et camouflée à mouvement M23. Ça, c'est clair, c'est une évidence. Nous ne pouvons que les déplorer et nous ne pouvons que récuser la communauté internationale qui s'est complète à ne pas dénoncer cela. Alors que les rapports des propres experts des Nations Unies établissent qu'il s'agit bien d'une agression au travers des troupes rwandaises qui sont entrées en République démocratique du Congo. Mais ça, c'est un fait. Mais, monsieur le journaliste, ce que vous devez savoir, c'est que la protection des frontières nationales, la sécurité des citoyens, la sécurité de biens dans un pays, mais ça fait partie des pouvoirs régaliens d'un État. Un État doit savoir protéger, même si c'est un État qui fait l'objet de la jalousie à cause de ses richesses, mais l'État doit savoir protéger son pays. C'est pour ça qu'il y a des forces armées, c'est pour ça qu'il y a de la police, c'est pour ça qu'il y a le service des renseignements. L'État congolais a failli à ses responsabilités régalienne. Donc, le gouvernement Soumouina a échoué parce que quand j'étais Premier ministre, j'ai été nommé Premier ministre en avril 2012. En mai 2012, le M23 a commencé. J'ai été à Bounagana au mois de mai 2012. J'ai parlé avec les forces armées congolaises qui étaient au front. Une année après, en novembre 2013, le M23 a été bouté dehors par les forces armées congolaise et l'M23 est rentré chez lui.
Justement, monsieur.
Ça fait plus de 3 ans.
Justement, monsieur le Premier ministre, monsieur Augustin Matata Ponyo, justement, vous l'avez rappelé, hein, en 2013, vous étiez Premier ministre. On se rappelle que la FARDC avait défait les M23. Il s'est fait que nous faisons face à la même menace aujourd'hui. Et qu'est-ce qui avait été fait à ces moments-là et qui peut-être, n'est-ce pas, pris comme référence, qui peut être mis à profit aujourd'hui avec espoir de régler de manière définitive cette crise de l'Est du pays.
Messieurs les journalistes, ce que je vous dis ici, retenez-le, c'est un message que j'ai passé lorsque cette rébellion, entre guillemets, a commencé. Ce message, je l'ai passé au gouvernement, aux autorités de ce pays, de la manière la plus professionnelle, et ce message est arrivé. La guerre à l'Est ne peut pas être vaincue par des forces armées étrangères. La guerre à l'Est ne peut être vaincue que par les forces armées congolaises, comme cela a été le cas en 2013. En dépit du fait que les forces de la MONUSCO étaient là, vous pouvez le vérifier auprès de la MONUSCO, ce sont les forces armées congolaises qui ont bouté les M23 dehors. Moi-même, sous le leadership du président Joseph Kabila de l'époque, j'ai reçu les honneurs militaires faits par les forces armées congolaises sur les collines de Tianzhou. Et ils m'ont montré avec fierté comment ils ont bouté les M23 dehors. Quel était le secret? Le secret, c'est le leadership de qualité. Le secret, c'est la gouvernance de qualité. Il y a un déficit chronique aujourd'hui à la fois de leadership et de gouvernance qui fait que les forces armées congolaises ne sont pas à mesure de pouvoir bouter l'ennemi dehors. Le secret, il est simple. Il faut rendre ces forces armées congolaises fortes comme nous l'avons fait en 2013. Et ce sont les forces armées congolaises revigorées avec un leadership de qualité, une gouvernance de qualité et qui ont permis de récupérer tout notre territoire. J'ai donné tout ce qu'il faut, j'ai donné ça au gouvernement actuel. Voilà.
Merci, bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez, n'est-ce pas, sur Radio Capi, vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui du bilan de l'action du gouvernement souminois sur le plan socio-économique et sécuritaire pendant l'année 2024 avec notre invité Augustin Matata Ponyo, député national, leader autorité morale du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD en sigle, parti politique de l'opposition. Il est également ancien premier ministre de la RDC. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler au 099-706-80-79, donc nous allons à présent ouvrir, n'est-ce pas, les standards avec tous ces auditeurs qui veulent intervenir, qui sont déjà en ligne. Patrick Odia de Lubumbashi, bonjour Maître Patrick Odia.
Bonjour Guy Mété, bonjour à l'honorable Mathias Ampignon et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Allez-y, Maître Patrick Odia.
Merci de m'associer à ce niveau du débat. Je voudrais saluer la présence dans l'émission du professeur Mathias Ampignon et aussi des analyses également. Mais d'emblée, je voudrais également remarquer que tous les propos allégués par lui ne sont pas toujours, sont discutables sur le plan politique également. Il ne peut pas toujours s'inventer ou se vanter de son bilan. Lorsqu'il parle de la question, il aborde la question sécuritaire, par exemple, qu'il a émis des honneurs qui ont été rendus parce que la M23 a été vaincue. Mais nous savons dans quelles circonstances l'M23 a eu à déposer les armes sous le gouvernement Patata et sous la présence de Joseph Kabila. Donc, là, n'est pas besoin de pouvoir ramener encore ce niveau du débat, mais je pense qu'il ne peut pas alléger ces faits parce que nous savons dans quelle mesure il y a eu bradage et tout ce que nous savons dans l'armée, les minéraux, les couleurs économiques et sécuritaires ont été vendus pour avoir la paix. Et c'est ce que le peuple congolais n'avait pas apprécié. Il y a l'accord qui existe.
Donc, Maître Patrick Odia, est-ce que vous pouvez nous expliquer les conditions dans lesquelles les FARDC avaient vaincu les M23 à l'époque? Parce qu'apparemment, vous maîtrisez bien cette question, cette dimension de choses.
Bon, sans avoir crainte des personnes, il y a l'accord qui existe au jour d'aujourd'hui. Il y a eu des bradages et certains militaires du M23, je parle de Rwanda, ont eu des postes également dans le gouvernement pour qu'il y ait un cessez-le-feu et pour qu'il y ait la signature de cet accord également. Est-ce que c'est ce que le peuple congolais voudrait au jour d'aujourd'hui? Dédié absolument non. L'honorable Matata ne peut pas nier au jour d'aujourd'hui. Mais je voudrais aborder la question sécuritaire aujourd'hui, si bien qu'il y a des avancées, mais il y a beaucoup de défis à relever sur la question sécuritaire au niveau de l'Est également. Je pense que toutes les voies diplomatiques ont montrer leurs limites aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous invitons le régime Tshisekedi à pouvoir penser à une répression, j'allais dire, une proportionnalité des armes ou des forces au niveau de l'Est des pays en déclenchant ne plus que la guerre. Parce que nous avons senti la loi de programmation militaire qui, jusqu'à ces jours, continue de bouffer des millions et des milliards, mais nous ne sentons pas un résultat positif sur la question sécuritaire. Mais sur la question économique. L'honorable Matata Ponyo, à l'IPC autrefois, avait reconnu le financement des FMI et de la Banque mondiale. Et voir au jour d'aujourd'hui dans des émissions l'honorable Matete critiquait sévèrement le financement des institutions de Bretton Woods, je pense que l'homme politique congolais n'est pas constant, ou bien c'est moi qui suis mauvais ou qui n'a pas la même appréhension de l'étude politique en RDC également. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le financement de Bretton Woods ni de la Banque mondiale, le financement n'a jamais été quelque chose de positif dans un gouvernement qui veut un développement. Ça, nous devons le reconnaître. Mais voir là où l'économie était et voir là où nous amenons au jour d'aujourd'hui, nous sommes au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il y a lieu de pouvoir reconnaître quelques mérites du gouvernement Tshumwina, notamment en stabilisant les taux économiques, mais les taux des dollars également monétaires, notamment également en menant des réformes financières qui peuvent ou qui permettent aujourd'hui de récolter beaucoup de budgets et beaucoup d'argent dans la caisse des trésors du public également. Mais même s'il y a un problème de l'affectation de ces fonds récoltés de par les dirigeants congolais, je pense qu'il y a un problème. Mais récolter les données, c'est autre chose. Peut-être les affectations également en est une autre chose également. Les gouvernements Tshumwina, si nous étions dans un parlement, dans un pays sérieux, je pense que le gouvernement Tshumwina n'existerait même pas à ces jours. Ça, nous devons le dire. Même certains membres du gouvernement n'existeraient pas au jour d'aujourd'hui, si du moins la première ministre aurait eu la chance de rester. Mais du moins, la plupart des membres du gouvernement Tshumwina ne devraient pas être là. Si on avait des députés capables et des députés rigoureux qui pouvaient contrôler et voir appliquer le contrôle parlementaire. Mais parce que nous sommes dans les présentateurs politiques, parce que nous avons tel leader, tel autre qui ne voudrait pas être filtré également, et nous investissons. Mais pendant ce moment, les peuples congolais ne sont pas le financement des 3 milliards. Et je rappelle que ce n'est pas la première fois que le FMI ou bien la Banque mondiale ont financé sous Kazali Nicolas. Il y a eu également un financement de quelques milliards également. Quel est le taux de l'impact de ces 3 millions ou de ces quelques milliards qui ont été, dirons trois fois, sous Nicolas Kazali fait. Aucun impact sur le plan économique.
Merci.
D'autant plus qu'il y a la hausse vertigineuse des prix et des denrées alimentaires qui sont presque rares. Où en sommes-nous avec les 6 millions d'emplois? Est-ce que pouvons-nous aujourd'hui le gouvernement Tshumwina? Peut-il à ces jours nous dire combien d'emplois ont-ils été créés dans l'informel, tout comme dans l'informel? Ils ne sont pas capables. Je pense que le Parlement congolais doit prendre la question en charge. Mais pourquoi sanctionner puisque certains ministres, si pas le gouvernement tout entier, pour permettre à ce que les hommes compétents et les hommes intègres puissent également occuper les endroits?
On a compris.
Mais, je félicite l'honorable, mais pour lui qu'il ne doit pas toujours oublier le passé. Même sous son gouvernement, nous avons également des points positifs, mais sous son gouvernement également, nous avons aussi des exemples très dangereux que nous ne voudrions pas reproduire encore dans le gouvernement prochain.
Merci, Maître Patrick Odia. Je rappelle que vous appelez depuis la ville de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Et nous revenons à Kinshasa. On me signale que Maître Omar Kigalou est de nouveau là. Maître Omar Kigalou, vous êtes là?
Je suis là, Monsieur Guy Mathieu.
Bonjour.
Je suis là. Bonjour Monsieur Guy et bonjour à Monsieur Matata Ponyo.
Allez-y.
Merci beaucoup du verbe que vous m'adjugiez. Je voudrais commencer avec cette maxime de Félix Houphouët-Boigny qui disait « Lorsque l'économie est enrhumée, la politique tousse. » Et Akerlof, qui est un professeur américain d'économie, aimait dire « Toute stratégie économique qui ne résout pas les problèmes sociaux de base est une économie desséchée, morte et inutile. » Ces deux maximes, M. Guy Mathieu, me permet de rappeler que le rôle premier d'un État est d'assurer la sécurité des personnes et leurs biens. Son second rôle principal, c'est celui de satisfaire les besoins fondamentaux des citoyens. L'accès à l'eau, au courant électrique, aux revenus, à l'éducation et aux soins de santé. Contrairement à M. Matata Ponyo, que j'apprécie beaucoup, moi je pense que le bilan sur le plan sécuritaire est mitigé. Ce n'est pas tous les 145 territoires qui vivent dans la sécurité. Il y a des territoires qui sont dans la paix. Il ne faut pas dire non à tout parce qu'on est dans l'opposition, ou oui à tout parce qu'on est dans l'union sacrée. Il faut analyser de manière rigoureuse et scientifique comme vous l'avez toujours fait. À Kinshasa, par exemple, on apprécie les efforts de l'opération Mobondo. Autant que
faire Ndobo, opération Ndobo.
Ndobo, oui. On apprécie cela. Mais il y a encore des zones de tension comme à l'est, comme encore avec ceux de Wamutu là-bas. Le gouvernement doit encore faire des efforts. Sur le plan économique, je ne suis pas aussi d'accord avec lui quand il dit que c'est largement négatif. Non, le gouvernement ne fait pas tout seulement en termes négatifs. On a apprécié ici la hausse du budget. C'est un aspect économique. Il y a eu des salaires des agents qui ont été élevés. C'est une avancée. Il y a des paiements réguliers. Lui, il est député national. Il touche régulièrement plus de 10 000 dollars. C'est une avancée, même s'il faut généraliser pour tout le monde, mais il faut apprécier le peu qui est fait. Nous apprécions cela. Mais sur le plan négatif, je suis d'accord avec lui. Au-delà de ce qu'il a dit, nous parlons également des salaires inhumains. Aujourd'hui, les Congolais qui travaillent souffrent. Les SMIC n'est pas respecté, le code du travail est bafoué par les Indo-Pakistanais. Il y a le prix élevé des marchandises de première nécessité. Il y a aussi les faibles accès aux besoins des bases. Mais je voudrais, comme M. Matata Ponyo, procéder par l'approche causaliste. On n'est pas seulement là pour critiquer, mais dénicher les causes pour que le gouvernement change. La première cause, c'est que nous avons une économie extravertie, tournée vers l'extérieur. Tout est dollarisé, alors que le Congo a une monnaie qui doit être dominée. Tout vient de l'extérieur. Deuxième cause, les défauts de production interne. Il n'y a pas de développement socio-économique sans production interne. On ne produit rien, on exporte tout. Il y a aussi la mauvaise gouvernance, qui est aujourd'hui démontrée par les détournements que nous vivons. Il y a la corruption. Dans un pays où vit la corruption, on ne peut pas espérer une espérance. Il y a aussi un défaut de contrôle. On l'a dit la fois passée au président de l'Assemblée qui était passé. On ne contrôle pas ce qui est affecté comme dépense. Et tout dépense, tout fait, et tout ne cadre pas avec la société. Et enfin, il y a l'impunité. Il y a des gens qui détournent, qui gèrent mal, mais on les reconduit et on ne les fait rien. Pour clôturer, M. Guy Maté, moi, j'apprécie ce qui est fait en termes sécuritaires et économiques, surtout en termes de réforme, mais je pense que ce qui doit être fait, c'est la volonté politique, la bonne gouvernance. Chaque politique sociale dépose sur deux béquilles, la béquille budgétaire et la béquille économique monétaire. La béquille budgétaire qui veut que lorsqu'on affecte les dépenses, qu'elles correspondent aux ressources prévues et qu'elles soient bien gérées. La béquille monétaire qui veut que l'on lance sur le terrain les agents économiques qui vérifient si les principes économiques établis sont respectés. Est-ce que les prix sont respectés? Est-ce que les marchandises sont vendues? C'est là. Le tout se résume par la volonté politique,
merci,
la bonne gouvernance et le leadership incarné. Je dis et je vous remercie.
Merci. Nous allons prendre le troisième auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kananga dans le Kasaï Central. C'est Félix Moulumba Kalemba qui est journaliste et correspondant du quotidien Forum des As et du groupe Le Potentiel. Félix Moulumba Kalemba, bonjour.
Bonjour Radio Kapi.
Allez-y.
Voilà. Je suis en le bilan du gouvernement chinois pour 2024. Mais écoutez, l'ancien premier ministre Matata Ponyo, on peut donner raison à ce qu'il a dit, mais pas totalement. Dire que le bilan est largement négatif. En tout cas, c'est très fort. C'est très fort. Personne n'ignore que l'année 2024 a été marquée par des défis significatifs, ainsi que des progrès notables pour le gouvernement dirigé aujourd'hui par une femme. Et ce bilan, comme vous l'avez procédé, c'est deux aspects, notamment sur le plan économique.
Votre ligne n'est pas claire, hein, Félix, votre ligne n'est pas claire. Vous êtes dans une maison ou vous êtes à l'extérieur?
Non, je suis à l'extérieur. Vous me captez maintenant?
Allez-y.
Je me suis déplacé.
Allez-y.
Voilà. Parlons maintenant de sur le plan socio-économique. Je vais vous parler aujourd'hui de la réforme économique et aussi de développement. Le gouvernement chinois a poursuivi la mise en œuvre des réformes économiques visant, n'est-ce pas, à stimuler la croissance et à diversifier l'économie aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et parmi celles-ci, des mesures ont été prises pour améliorer le climat de affaires, notamment simplification des procédures administratives. Il y a aussi investissement dans les infrastructures. Il y a soutien aux acteurs, aux secteurs stratégiques. Et si je peux revenir sur l'aspect que j'ai évoqué, simplification des procédures administratives, et il faut noter que de fait, des efforts ont été faits pour réduire les formalités nécessaires à l'ouverture et à la gestion des entreprises. Et cela a entraîné une légère augmentation de la création de petites et moyennes entreprises, PME, comme vous l'avez toujours dit. Et deuxième aspect, plutôt, nous sommes toujours dans l'aspect de socio-économique.
Oui, allez-y rapidement.
Nous avons aussi la situation aujourd'hui, la situation sociale et lutte contre la pauvreté. Mais il faut signaler que malgré ces initiatives, La situation sociale reste préoccupante. Hein. Nous pouvons donner raison à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. L'indice de développement humain de la République démocratique du Congo demeure dans de plus bas. Mais il y a aussi des programmes qui ont été initiés pour aider les plus vulnérables. Mais l'attente des résultats tangibles a été entravée par une gouvernance souvent critiquée pour son manque de pouvoir.
Merci, on a compris.
Mais
on a compris.
Il y a aussi, l'éducation et la santé. Dire que le bilan est largement négatif, moi je dis que c'est trop fort. Aujourd'hui, il y a la gratuité de maternité, il y a la gratuité de l'enseignement de base.
Ok.
Ça rentre toujours dans le bilan socio-économique du gouvernement souminois.
Merci Félix Moulumba. Monsieur Augustin Matata Ponyo, vous allez réagir aux interventions des maîtres Marc Galou de Kinshasa, Patrick Odia de Lubumbashi et Félix Moulumba de Kananga.
Oui, merci beaucoup monsieur le journaliste. Je commence par Patrick Odia de Lubumbashi qui a estimé que mes propos étaient discutables. Étant donné que pour lui, il pense que le bilan sécuritaire est en partie positif. Bon, mais je crois que je n'ai pas, moi, refusé qu'il y ait une grande partie du pays qui est en paix. Mais j'ai répondu à la question que vous m'avez posée de savoir qu'est-ce que j'apprécie par rapport à la guerre nous menée à travers les mouvements M23. Et toute ma réponse était pour dire que la gestion de cette question par le gouvernement est un échec cuisant, parce que depuis 3 ans, et non seulement le gouvernement n'arrive pas à mettre fin à cette guerre, mais nous remarquons que les mouvements M23 étant l'espace qu'il est en train d'occuper. Et là où je ne suis pas d'accord avec Monsieur Patrick Odia, c'est quand il dit que il y a eu des accords pour que le M23 puisse déposer les armes. Et ça, je voudrais dire, c'est faux et archi faux. Et quand j'étais Premier ministre, mon gouvernement n'a jamais signé un accord discret ou indiscret, direct ou indirect. Tout ce que je sais, honneur aux forces armées congolaises, elles ont été appuyées logistiquement, elles ont été appuyées techniquement, elles ont été appuyées financièrement, elles ont été appuyées moralement, et les forces armées congolaises ont bouté dehors les forces du M23. Donc ça, je peux vous le dire, c'était de la part des forces armées congolaises, composées des citoyens et congolais, et non pas un accord quelconque. Ne suivez pas ce que les gens disent. Les gens veulent distraire les Congolais qui a eu des accords. Il n'y a pas eu d'accord. S'il y a eu des accords, mais qui les signe? La vérité, c'est que ce sont les forces armées congolaises qui ont pu mettre dehors, mais ces forces armées ont bénéficié d'un leadership de qualité, d'une gouvernance de qualité qui fait constamment et cruellement défaut. En ce qui concerne le Fonds monétaire international, je ne me contredis pas. À l'université protestante au Congo, où j'enseigne la macroéconomie, j'ai dit que le Fonds monétaire international est une institution capitaliste qui a pour mission d'accompagner le pays en développement vers le progrès. Mais c'est une institution aussi qui a parfois des relents politiques. J'étais ministre des Finances en 2010. J'ai réalisé, ensemble avec le gouvernement, tous les critères du programme. Mais parce que politiquement, le Fonds monétaire international était instrumentalisé, le Fonds monétaire a refusé de conclure ce programme parce que il y a eu un contrat signé par la GECAMINE et qui attribuait un carré minier sans respecter le processus d'appel d'offres. Mais ici, nous avons des situations où il y a des détournements, des centaines de millions de dollars qui sont connus de tout le monde. Il y a des tas de corruption connus de tout le monde. Mais le Fonds monétaire ferme les yeux. Nous avons écrit à la directrice générale du FMI de dire, oui, nous avons, le pays a besoin des fonds. Nous savons que ces fonds, c'est pour le développement du pays. Mais ces fonds ne peuvent servir au développement du pays que s'ils arrivent à être canalisés effectivement dans les circuits de développement. Auditer ne fût-ce que ce que vous avez donné, près de 2 milliards 176 millions de 2019 à 2024. Auditer pour qu'on sache si les 1 milliard 466 qu'on dit avoir été détournés ont été effectivement détournés. Si un médecin prescrit un médicament à un malade, le malade ne prend pas le médicament. La famille des malades dit au médecin, avant de pouvoir prescrire d'autres médicaments, prenez le soin de voir si votre malade a pris le médicament. Et le médecin qui s'abstient à dire, écoutez, qu'il prenne le médicament, qu'il ne le prenne pas. Moi, j'ai prescrit le médicament, le plus important, c'est qu'on me paye. Mais c'est pas un bon médecin. Et il faut pas oublier que les ressources qui sont décaissées par le Fonds monétaire international aujourd'hui, mais ce ne sont pas des dons. Une bonne partie de ces ressources, c'est des dettes. Nous ne devons pas hypothéquer l'avenir des jeunes Congolais pour des fonds qui sont décaissés aujourd'hui par le FMI et qui seront réclamés demain quand la plupart d'entre nous ne seront plus en vie. Et la RDC va être classée pays pauvre très endetté pour des ressources décaissées de manière tout à fait laxiste par le Fonds monétaire international. Et qui doivent être remboursés par des générations et des générations. N'hypothéquons pas l'avenir des Congolais. Les Congolais ont aussi besoin de vivre après nous une vie qui n'a pas de fardeau. En ce qui concerne M. Omari Kigalo, bon, là, je pense qu'il a, il a aussi reconnu une part de mes vérités. Bon, lui, il dit aussi que bon, le bilan n'est pas il est mitigé, même il dit qu'il n'est pas largement négatif. Il recourt aux propos du président Félix Houphouët-Boigny que j'apprécie beaucoup, et là je crois que il est d'accord avec moi. Le rôle de l'État, monsieur le journaliste, le rôle de l'État, c'est de sécuriser les personnes et le bien qui se trouve à l'intérieur. C'est un droit régalien. On ne peut pas continuer à se plaindre tout le temps. Nous devons nous organiser. Les Congolais qui ont combattu contre l'M23 sont encore dans ce pays. Le général de forces armées, le chef d'état-major des forces armées de l'époque, le général Itumba, mais il est dans ce pays. Il y a eu une opération Pomme Orange qui a été exécutée de manière minutieuse à l'époque par les autorités du pays. Mais c'est le programme Pomme Orange. Tous les généraux qui ont combattu contre l'M23, à ma connaissance, sont encore dans ce pays. Mais quand on parle du budget, mais j'ai dit à l'université à l'université protestante, aucun pays au monde n'est pas apprécié par la hauteur de son budget. J'enseigne les cours de politique économique à l'université. J'enseigne la politique budgétaire, la politique monétaire. Il y a des indicateurs clés qui sont enseignés pour pouvoir apprécier l'efficacité d'une politique budgétaire. Il y a des ratios recettes sur PIB. Dépenses sur PIB, donc les taux de pression fiscale, il y a ce qu'on appelle les règles budgétaires, les ratios entre l'endettement extérieur et le PIB, pour apprécier la soutenabilité de la dette. Nous sommes les seuls pays au monde où ceux qui n'ont pas travaillé inventent des ratios pour dire oui, les budgets élevés. Non, vous pouvez avoir un petit budget lorsque les ressources de ce budget sont canalisés de manière optimale et ça affecte le niveau de vie des populations. Laissez endormir les Congolais avec un budget de 14 milliards, de 15 milliards, mais qui ne rapporte pas du social. Et je voudrais parler de... Bon, je crois que M. Omar Kigalou m'a rejoint en disant qu'il y a trop de corruption dans ce pays, il y a l'impunité dans ce pays. Il a dit aussi que la production intérieure n'arrive pas à décoller. Bon, mais là, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est lorsqu'il a voulu nuancer en disant, oui, il y a paiement régulier des salaires. Mais moi, je suis à Kindu ici. J'étais à Kinshasa. Mais on voit chaque fois les députés provinciaux qui font le pied de grille à la primature. On voit les députés provinciaux qui font le pied de grille au ministère des Finances. Les gens ne sont pas payés. Il y a des grèves pratiquement tous les jours. Les infirmiers, le médecin, les professeurs, les enseignants. Mais vous pensez que toutes ces grèves-là, ce sont des signes qui indiquent que le pays marche bien? Non! Le bilan En tout cas, à mon avis, il est largement
Merci.
Négatif.
Merci.
Félix Simulumba Kalimba, pour terminer.
Oui. Il a évoqué notamment la gratuité de l'enseignement et de la l'enseignement et de la maternité.
Mais écoutez, ça, ce sont des épiphénomènes. Ce sont des épiphénomènes. Hein? La stabilité du taux d'échange. On nous chante la stabilité du taux d'échange. Mais le taux s'est quand même déprécié de 6,6%. Mais il ne faut pas oublier, messieurs les journalistes, que ce taux d'échange dont on parle aujourd'hui, pendant près de 7 ans, il est resté à 924 francs congolais, les dollars américains, dans ce même pays.
À votre époque.
Avec les mêmes règles et la même constitution. Hein? Oui, à mon époque, j'étais Premier ministre. 924 francs congolais, jusqu'à me surnommer les docteurs du dollar. Mais les règles sont simples. Les règles sont simples. On avait un budget de 4 à 5 milliards de dollars. On a acheté on a acheté 4 avions. Aujourd'hui, avec un budget de 14 milliards, on n'a même pas un avion. Tous les avions, que ce soit des Congo Airways, sont des avions de location. Les avions d'Air Congo, ce sont des avions apparemment congolais, mais tout le monde le sait que ça n'appartient pas aux Congolais. On a laissé 500 bus.
Merci, monsieur le Premier ministre.
Avec 5 milliards de dollars. Aujourd'hui, il y a 82 bus. Mais écoutez, on a payé les salaires régulièrement. Mais aujourd'hui, on ne paye plus les salaires régulièrement. Mais où va le budget? C'est l'histoire d'un papa qui dit qu'on a triplé son salaire, mais les enfants qui prenaient 3 repas par jour prennent 1. Même un enfant de 4 ans, il va demander à son père, mais tu nous dis que ton budget, ton salaire a été multiplié par 3. Mais pourquoi est-ce qu'on ne mange plus comme avant? Alors, pour terminer, Félix Mulumba Kalemba, bon, évidemment, il dit que le bilan n'est pas largement négatif et qu'il y a eu quand même quelques réformes économiques qui ont été faites par madame la première ministre. Mais vous savez, messieurs les journalistes, on ne fait pas les réformes pour les faire. On fait des réformes pour qu'il y ait des résultats. Quand nous avons fait la réforme, par exemple, la bancarisation de la paye, mais il y a eu des résultats. On a gagné 10 millions de dollars chaque mois et ces 10 millions de dollars ont permis de réinjecter dans l'économie des ressources qui ont facilité les paiements réguliers des salaires. La salubrité, aujourd'hui on vous parle du triangle de la mort. Mais ça c'est un bilan négatif de la madame la première ministre. Il y a la ville de Kinshasa, elle pue aujourd'hui. Il y a l'insalubrité, nous sommes la ville la plus sale au monde. Et il y a des constructions anarchiques partout, sur les rivières, sur les fleuves. Il y a des embouteillages monstres. Mais ça, c'est un bilan largement négatif.
Merci, M. Augustin Matata Ponyo. Donc, nous allons. Est-ce que vous pouvez permettre que nous puissions donner aussi la parole aux deux autres intervenants, les deux autres auditeurs, en fait, les deux derniers auditeurs. Voilà. Donc, nous allons nous revenons à Kinshasa avec Gaston Kimbeza, Djapo. Gaston Kimbeza, bonjour.
Bonjour, Guy Matin, et bonjour, la Radio Capi.
Allez-y.
Moi, je vais aller tout droit au but parce que je comprends que cette émission, au lieu de faire une évaluation sur le bilan de Madame la Première ministre, nous sommes plutôt en train de revivre les passés de Félix Matata. Je voulais d'emblée lui dire.
Non. En fait, nous faisons les bilans, n'est-ce pas? Mais il y a des auditeurs qui ont posé des questions à Matata Ponyo en disant que à votre époque il y a eu ça. Voilà que ce qui s'est fait c'est ça. Et donc il ne faut pas dire que c'est largement négatif. Il y a quand même des choses positives qu'il faut évoquer. C'est pourquoi il est obligé chaque fois quand il répond à ça, à rappeler ce qu'il avait fait à l'époque quand il était encore Premier ministre. Allez-y.
Je reviens sur le même point. Mais comme il s'agit de rappel, je joins.
Allez-y rapidement, parce qu'on est à la fin de l'émission.
Je joins certains auteurs qui ont dit que largement négatif, même moi, je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre Matata, mais que nous trouvons d'emblée fermé, parce que tout ce qu'il a comme expertise, il ne met pas ça à l'intérêt de la nation. Nous le trouvons dans une taux totalement de l'opposition. Quand il parle à son époque, le taux était à 93, il payait combien de fonctionnaires? Comment il oublie de dire que le gouvernement actuel a mécanisé presque fois 3 le nombre de fonctionnaires que lui payait. Quand il dit qu'à son époque, les taux étaient ce qu'il était, mais les 93, ça représentait combien pour un fonctionnaire et pour combien de gens qui étaient payés. Je pense que M. Matata devait être très ouvert. D'abord, c'est un homme fermé, je ne comprends pas qu'il est dans l'opposition. Moi, je l'ai croisé personnellement dans un vol d'avion où je devais échanger avec lui. Malheureusement, le téléphone ne réagit pas. Il devait prendre son expertise et mettre en faveur
merci.
De la population congolaise.
Merci Gaston, merci, on a compris. Le dernier c'est Maître Kambale Kamwisi, il nous appelle depuis Goma au Nord Kivu. Maître Kambale, vous êtes là?
Bonjour, bonjour monsieur le journaliste.
Vous n'avez que 30 secondes. Allez-y rapidement.
Merci beaucoup. Je disais que pour le gouvernement actuel, ils ont travaillé, bien qu'ils n'ont pas atteint les 100% de ce que la population attendait d'eux. Mais malheureusement, nous avons des hommes politiques congolais qui sont des experts à détournement. Cet argent-là que la FMI va octroyer à la RDC, malheureusement, 50% ou 60% de cette somme sera tout détourné par les mêmes personnes-là. Les personnes qui ont allé négocier l'argent, ce sont les mêmes personnes à qui l'argent viendra dans leur poche. Voilà, le pays a un grave problème. Il faut que nous ayons des hommes, des beaux politiciens qui aiment le pays.
Merci, Maître Omar Kambale. Monsieur Augustin Matata Ponyo, vous allez réagir aux propos de Gaston Kimbeza et de Maître Kambale Kamwisi, mais aussi par rapport à la situation sécuritaire. Hein. On sait que le gouvernement a dit à travers le président de la République récemment qu'il n'y aura pas de négociation avec le M23 et que c'est la ligne rouge. Et on se rappelle qu'à l'époque, vous avez commencé par vaincre d'abord les M23 et puis vous avez accepté, n'est-ce pas, de cet accord-là qui avait été signé à Nairobi. Alors, qu'est-ce que vous recommanderez au gouvernement congolais aujourd'hui? Et ça sera sous votre conclusion parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. En ce qui concerne la préoccupation de monsieur Gaston Kimbeza, il dit que je dois mettre mon expertise au profit du pays. Je n'ai jamais refusé de mettre mon expertise au profit du pays. Voilà pourquoi je suis rentré dans ce pays, en dépit de toutes les tracasseries politiques, sécuritaires, judiciaires dont j'ai été victime dans mon propre pays pour avoir refusé de m'exiler. Mon expertise...
Votre mot de la fin, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Votre mot de la fin, M. Augustin Matata Ponyo. Votre mot de la fin.
Oui, voilà. Voilà, donc je suis prêt à... mon expertise, elle est disponible, mais on la donne qu'à ceux qui veulent la recevoir.
Merci.
En ce qui concerne M. Kambale et Kamwisi,
on est malheureusement à la fin de l'émission. On est à la fin de l'émission, M. Matata Ponyo. Oui. Vous allez nous excuser, hein, on doit s'arrêter par là. Oui. C'est la fin donc de cette émission. Nous disons merci à notre invité Augustin Matata Ponyo, député national et autorité morale du parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD en sigle, parti politique de l'opposition. Il est également ancien premier ministre de la RDC. Merci aussi à tous ceux qui sont intervenus dans cette émission. Merci également à Hippolyte Kapanga, à Debs Vita qui est là et qui est à la technique, Paul Bagnyama à la vidéo et Julie Fezabongo qui l'a réalisé et coordonné sous la supervision de Martin Sebujangwe, à la présentation Guy Maté. Merci une fois de plus et bon suivi de programme sur Radio Okapi. Nous allons nous retrouver demain avec un autre sujet.